Sur les analogies en électricité, elle va répondre aussi à une question que André Thibérien a posée un peu ce matin, à savoir quelles sont les limites et quand l'analogie se trouve dans les limites où elle peut être utile, bah, autant ne pas aller au-delà de ces limites. Mais d'autre part, à une question que j'ai essayé de poser, à savoir l'analogie, pour quelle difficulté? Parce que s'il n'y a pas de difficulté, autant dans l'enseignement, peut-être l'utilisation de l'analogie ne se justifie pas tant que ça. Alors, ce que vous avez ici, ce n'est pas un outil d'apprentissage ni d'enseignement. C'est un document qui est produit par l'Institut national des recherches en sécurité et qui est très très largement diffusé. Et il va y avoir d'autres extraits de ce document. Alors, moi je trouve que les couleurs dans les vidéoprojecteurs ici ne rendent pas justice à la beauté de ce document. Les petits bonhommes sont beaucoup plus verts que ce que vous avez là-dedans. Mais bon, hein, voilà. Et alors, pourquoi les analogies? D'une part, quand vous avez les lampes qui brillent ou quand vous avez un circuit, j'espère que je ne les cache pas pour personne, le circuit qui est schématisé de manière normalisée, ça peut sembler délicat, surtout dans l'enseignement au collège, quand c'est la première familiarisation avec l'électrocinétique, il n'y a pas vraiment la possibilité de voir ce qui se passe dans les fils, dans les générateurs, dans d'autres éléments du circuit électrique. C'est d'ailleurs très intéressant pour les circuits, disons, familier, à savoir tout électroménager à la maison ou éventuellement le chauffage électrique, et d'autre part ce qu'il y a d'électrique dans les voitures, même celles qui ne sont pas électriques. Et donc du coup, comme en enseignement de la physique, on se sert des concepts qui semblent délicats, à savoir la tension électrique au collège ou potentielle quand on va un peu plus loin. L'intensité du courant, là aussi, à partir du collège, résistance électrique, tout ça, bah, ça semble demander à être un peu plus familiarisé. Et du coup, il y a cette tentation d'utiliser des analogies. Et donc, il y a beaucoup d'essais d'établir des correspondances entre certains aspects. Donc là encore, on est dans cette question des limites d'analogie, dans certains aspects d'un circuit électrique et de son analogie. Et donc, ma question principale, les fils conducteurs, pour quel obstacle? Et alors, l'obstacle qui a été très très abondamment étudié en recherche en didactique de la physique, c'était les raisonnements séquentiels. À savoir que quand vous avez un circuit électrique, donc ici je les mets en une représentation schématique normalisée, il y a un générateur, il y a ici les deux lampes, il y a un élément qui possède une résistance entre les deux. Et les questions que les chercheurs ont posées là-dedans, c'était est-ce que les deux lampes qui sont identiques, sorties d'une boîte où il y a les caractéristiques identiques pour les deux objets, est-ce qu'elles vont briller pareil? Et on s'était rendu compte que, bah, selon l'analyse de ce circuit, si on s'est dit que le courant sort d'une borne du générateur, bah, il traverse la première lampe, il la fait briller, bah, après il doit passer à travers ce qui résiste, et après il y a une deuxième lampe, donc la deuxième lampe brille moins fort. Une question un peu plus, disons, méchante, c'est bon, ben alors, et maintenant on augmente la résistance, on augmente la valeur de la résistance. Ça existe des objets comme ça où on peut faire varier la résistance électrique. Ah ben, dans ces cas-là, la première lampe, elle ne bouge pas parce que le courant qui est sorti, ben, il la traverse avant d'arriver à la résistance, et la deuxième, bah, elle va briller moins bien. Or, et donc là je vous cite, dans le lycée c'est la moitié des élèves, à la fac 10%. Or, l'expérience, si on mesure ces intensités du courant, bah, elles sont partout les mêmes, et si on augmente la résistance, les deux lampes brillent moins bien, mais de manière identique. Et ça, c'est cette difficulté justement que un circuit électrique, même comme ça, qui a réputation de la part des physiciens d'être très simple, un circuit série, c'est un système, et dès qu'on modifie n'importe quoi dans le système, ça a l'influence sur tous les éléments du système, mais l'intensité du courant, justement, c'est cette grandeur physique qui se comporte de manière non séquentielle, à savoir, ce n'est pas correct de considérer ça comme quelque chose qui serait produit dans le générateur, sorti du générateur, subissant différents événements en parcourant différents éléments du circuit, et arrivant à être plus ou moins détruit, épuisé, usé dans le générateur. Et pourtant, on dit souvent « source du courant », au lieu de dire « source de tension », parce que, à part quelques gadgets électroniques, toutes les sources que nous avons sont des sources de tension. Ici, tout ce qu'on a là-dedans, c'est 230 volts. Dans la voiture, c'est différent, mais c'est toujours une tension. Et à la maison, bon, je n'ai pas besoin de vous dire. Et même quand on a des jouets qui sont alimentés par des piles, ce soit 1,5, ce soit 4,5, mais c'est toujours deux générateurs de tension. Et ça, ça peut poser des problèmes. Mais voilà, vous allez voir que... les circuits simples, ce n'est pas tout. Alors, un commentaire encore, pardon, avant d'aller plus loin. Quand on voit qu'à la fac, il n'y a que 10% d'étudiants qui présentent encore cette difficulté, donc qui sont encore dans ces raisonnements séquentiels, surtout pour la version de la question, on augmente la valeur de la résistance. Et que se passe-t-il? Donc là, ils répondent que justement, le premier élément, première lampe, rien, deuxième, baisse. On peut penser que cette difficulté diminue avec l'âge des élèves et des étudiants. À la fac, elle n'est plus très importante. 10% des étudiants, on peut dire, ce sont ceux qui, malheureusement, peut-être ne vont pas faire Master 2, etc. Or, on peut poser la question, justement, et qui tape sur la difficulté séquentielle avec d'autres circuits. Par exemple, ici, vous avez un circuit alimenté en alternatif. Alors là, il n'y a rien qui sort d'une borne, arrive à une autre. Mais les gens raisonnent toujours un peu pareil. Vous avez deux objets qui ont une résistance électrique et une bobine. Et donc, dans la bobine, vous avez un problème. L'intensité du courant n'est pas en phase avec une tension. Et pour ceux d'entre vous qui ont un peu oublié l'électrocinétique niveau fac maintenant, parce que ça a disparu complètement du lycée, et ce déphasage, justement, il correspond à un circuit. Donc, dans ce circuit, ce déphasage dépend de la résistance totale du circuit et de l'inductance, donc caractéristique de la bobine totale du circuit. Le fait que ça soit en deux morceaux, la résistance, ça n'a aucune importance. C'est une résistance équivalente qui produit ce déphasage. Or, quand on pose la question, est-ce que la tension U2, donc aux bornes du deuxième résisteur, est déphasée par rapport à la tension U1, donc si on pousse justement dans les pièges pour que les gens qui raisonnent séquentiellement, les courants sortent, ils traversent les premiers trucs, il ne va pas être déphasé parce qu'il n'y avait pas encore des bobines. Après arrive la bobine, elle va faire son sale boulot, et le deuxième, voilà. Et donc là, on se rend compte qu'au lycée, c'est toujours la moitié, mais à la fac, ça a doublé. Donc du coup, ces étudiants qui, pour une question avec un circuit très simple, semblaient donner des réponses correctes, on peut se poser la question, est-ce que c'était le résultat d'une réflexion en profondeur sur l'inadéquation d'un raisonnement séquentiel par rapport à un circuit série, ou est-ce que c'était familiarité avec des circuits simples? Ils connaissent la réponse par avance, ils la mémorisent, ils la restituent, il y a un autre circuit, voilà, ça se complique. Alors, je vous donne un troisième, il y en avait bien sûr dans la recherche beaucoup, avec plus ou moins de vacheries. Donc là, vous avez deux condensateurs, on pose la question, est-ce qu'ils se chargent en même temps, ou est-ce qu'il y en a un qui se charge avant l'autre? Et là encore, pour ceux d'entre vous qui ont oublié un peu ça, la durée de charge dépend de la capacité totale du circuit et de la résistance totale du circuit. Ici, cette capacité est en deux morceaux, ça n'a aucune importance. De toute manière, si un condensateur se chargeait d'abord, du moment où il est chargé, c'est un trou dans le circuit. Donc il ne peut se passer rien plus. Il n'a plus de courant, donc il n'y a plus la possibilité de charger un second. Or, au lycée, bon, ça c'était difficile à l'époque où c'était au programme du lycée. Donc vous avez deux tiers d'élèves qui résonnent séquentiellement, mais à la fac, là encore, ça a augmenté par rapport à la bobine. Et donc, je ne multiplie pas d'exemples, les raisonnements séquentiels ne disparaissent pas, ils se transposent, et à chaque fois qu'on pose une nouvelle question non standard, une question à laquelle les élèves, les étudiants ne se sont pas encore habitués. Ce raisonnement peut refaire surface, on en a déjà parlé ce matin. C'est robuste, voilà, c'est robuste. Ceci dit, ici, pour l'instant, il n'y avait aucune analogie explicite. Il y avait juste cette tendance à un raisonnement séquentiel, à un raisonnement où on raconte une histoire. Or, au moment de fermeture du circuit, au moment de mettre un circuit en fonctionnement, il y a une petite phase transitoire, mais ce n'est pas celle-ci qui est analysée à ces niveaux des études supérieures. Ici, ce qui est l'objet d'analyse, c'est un régime qui est stationnaire, et donc du coup, où c'est raconter une histoire, où quelque chose sort, traverse, bon, etc., n'est absolument pas utile à analyser les phénomènes qui sont en jeu. Et donc maintenant, passons aux analogies, et donc là, vous en avez une. C'est un dessin qui est inspiré de ce qu'il y avait dans le manuel. Vous voyez, il ne date pas d'hier, mais l'analogie est toujours utilisée par les enseignants. Hein. Donc, du coup, je me propose justement de vous dessiner cette version de la foule, justement, qui marche et qui, au moment d'une bifurcation, voilà, choisit d'aller d'une partie ou d'une autre. Alors, les auteurs de cette analogie, ils disent bien qu'il ne s'agit que d'une portion du circuit, et ici, ce n'est pas un circuit série. Quand vous avez une bifurcation, on appelle ça un circuit avec dérivation. Mais les problèmes qui apparaissent ici, on dit que le courant est représenté sur la forme d'un défilé très serré des petits bonhommes, marchant régulièrement et en même pas. Bon, hein, ça va revenir avec des petits, pardon, des petits bonhommes verts de l'Institut, pardon, de l'Institut de recherche sur la sécurité. Mais, et donc ça doit représenter les charges, ça doit représenter les électrons hein, dans un fil électrique, mais on dit encore, merci beaucoup, que cette image représente le mouvement de charge. Quand les charges se présentent devant les deux branches du circuit, une partie va à gauche, l'autre va à droite. Alors, ici, on peut penser, quand on voit ça, qu'il n'y a rien qui cloche. Or, c'est un peu le problème qu'on peut mettre dans la même catégorie que la division. Or, le courant ne se divise pas quand il y a une dérivation. Et là, je pense que vous le savez bien à partir de ce qui se passe à la maison, ou d'ailleurs ici, dès que vous avez des multiprises, chaque élément qui est branché dans la multiprise, il reçoit 230 volts, donc il reçoit la même tension. Et selon sa résistance, il y a un courant qui le traverse, qui est un courant qui est adapté au fonctionnement du matériel, donc il est le même. Vous branchez un autre ordinateur, moi je vais rebrancher le mien, ça ne va pas diminuer le courant, ni chez moi, ni chez vous. En revanche, ce qui sort du générateur. Ah ben là, comme il faut servir plusieurs branches, ben le courant à la sortie se multiplie. Et d'ailleurs, c'est ça qui provoque des incendies dans des bâtiments, dans des immeubles qui ne sont pas en bon état, parce que s'il n'y a pas là-dedans de fusibles, s'il n'y a pas là-dedans de protection, justement, le courant il peut être tellement fort qu'il peut chauffer l'isolant et qu'il peut provoquer des incendies, justement. Donc ici, le courant ne se divise pas, justement. Là, ça fait appel justement à, dans la branche principale, à une augmentation du courant. Donc ça ne va pas justement contre les problèmes que les circuits avec dérivation peuvent poser à la compréhension. Et d'autre part, quand une partie de défilé va à gauche, une à droite, c'est moitié-moitié, c'est un peu d'un côté, beaucoup de l'autre côté. Il y a au programme déjà du collège, et même dans des petites classes, les problèmes de court-circuit. Et quand vous avez un court-circuit, donc quand il y a une dérivation mais qui ne contient pas des lampes ou qui ne contient pas un petit moteur ou un autre élément, on dit le courant choisit le court-circuit. Pourquoi est-ce qu'il choisirait les court-circuits? Ça, c'est explicitement faux, mais vous trouverez ça y compris dans des manuels du collège écrits noir sur blanc, et il y a beaucoup d'enseignants qui les disent. Alors, bon, la réalité physique est telle que ça dépend de la résistance. Si la résistance d'un court-circuit est tellement plus faible par rapport à la résistance d'un petit moteur que les rapports des intensités du courant est à 1 à 200, bon, on peut dire que le courant passe par les moteurs et non par les court-circuits. Pardon. Que le courant ne veut pas passer par le moteur parce que comme il y a très très peu d'intensité du courant, ça insuffisant pour le faire tourner. Et donc, dans le court-circuit, au contraire, il va faire son effet de chauffage et donc, là encore, risque d'incendie. Alors, allons-y, voilà. L'Institut national des recherches de sécurité, et vous avez ici une analogie du générateur. Alors, potion magique, ça c'est très joli, et les problèmes, je vous avais déjà dit, l'intensité du courant, la même à la sortie, entre guillemets, du générateur qu'à l'entrée, ça c'est explicitement faux de ce point de vue. Il est difficile d'imaginer que cette image suggère que l'intensité du courant, la vitesse de petits bonshommes, de petites bonnes femmes d'ailleurs, est la même à la sortie du générateur qu'à l'entrée, dans le générateur après avoir parcouru tous les circuits. Or, l'idée ici, c'était générateur source d'énergie. Et cette idée, on peut la défendre, effectivement. Ce qui est fourni par les générateurs, c'est un transfert d'énergie qui, après, est transféré dans d'autres éléments du circuit, en travail mécanique, en transfert thermique, en lumière. Mais voilà, ce transfert, il ne se fait pas de cette manière, il n'a pas cet effet sur le porteur de charge dans le circuit. Et pour continuer, voilà, ici vous avez là encore une analogie qui est proposée pour faire imaginer une résistance électrique. Et donc, les auteurs de l'Institut national de recherche et de sécurité vous disent que la résistance traduit une difficulté. Et bon, elle dépend de longueur et section, c'est vrai. Mais dire que c'est comme ça que ça se passe, cette difficulté, pas vraiment, là encore, ça risque de renforcer une difficulté. Toujours sur le même point très très simple, même vitesse dans la portion avec une grande résistance électrique et dans la portion avec une très faible résistance électrique. Mais ça va plus loin. Parce que, justement, ici, vous avez une image pour dire que, voilà, on s'intéresse à la section pour assurer la libre circulation des électrons et éviter l'échauffement des câbles d'alimentation. Alors, effectivement, c'est très important de ne pas trop échauffer les câbles. Ceci dit, il y a ici un très, très gros problème, à savoir que ça aurait pu expliquer ce qui se passe si on avait partout des générateurs d'intensité. Donc, ces gadgets électroniques existent, mais on ne les utilise pas communément. On utilise des générateurs de tension, et pour les générateurs de tension, vous avez un dégagement thermique beaucoup plus fort quand les fils ont une résistance plus faible. C'est inversement proportionnel. Et donc, du coup, c'est dans la portion du circuit où vous avez les trois fils très à l'espace, où il y a un dégagement de chaleur beaucoup plus grand. Et donc, du coup, c'est faux des points de vue de la physique. C'est faux. Ce n'est pas là où la résistance est plus grande que le dégagement thermique est plus grand dans tous les circuits utilisés communément, en tout cas dans tous les circuits des chauffages électriques. Là, justement, si on veut augmenter l'intensité du chauffage, on ajoute en dérivation une branche, ce qui diminue la résistance totale, et donc avec une résistance totale diminuée, ça fait augmenter un transfert thermique. Ok, donc là, sur les petits hommes verts, on va arrêter et on va passer aux autres analogies qui sont résultat de très très grands travaux de recherche et ont donné lieu à des grands rapports. Ici, la bibliographie pour ce schéma, c'est un gros papier de plus d'une centaine de pages. Et alors, je ne vous demande pas de lire ce qu'il y a là-dedans, pas du tout. C'est juste pour voir la complexité entre un circuit qui est à gauche, qui est un circuit hydraulique, et un circuit à droite, qui est un simple circuit électrique. Alors, vous voyez comment il est simple. Ça ne ressemble pas à ce que vous avez vu tout à l'heure, à donc ces schémas avec générateur, fil de connexion, lampe, etc. Malgré que, en gros, c'est censé représenter la même chose. Donc, du coup, mon propos, il est que parfois, quand il y a une analogie qu'on propose, on a intérêt à bien comprendre un domaine, à bien comprendre l'autre domaine et à admirer les liens qu'on fait avec l'ingéniosité qu'on peut développer pour comparer ce qui se passe dans deux domaines tellement différents. Or, ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est l'objectif. Donc là, je vous laisse dans la langue d'origine. On vous dit, on peut trouver des correspondances entre un tuyau et un fil de connexion, entre une pompe hydraulique et une pile ou un générateur, entre un tuyau très étroit et un résistor électrique. Et on peut aussi trouver des correspondances de propriétés, à savoir que la pression, ou plus précisément surpression, pourrait être mise en relation avec la tension électrique. Le débit du fluide peut être mis en relation avec l'intensité du courant et l'étroitesse du tuyau avec la résistance électrique. Et donc voilà, c'est ça les rapports qui est là-dedans. Et dans son titre, les eaux qui coulent et les foules qui progressent, il y a les modèles mentaux de l'électricité. Donc du coup, la cible, c'est l'électricité, ici, et la correspondance avec les circuits hydrauliques doit être un support. Ceci dit, le problème est que, en tout cas dans les programmes français, mais américains aussi, les circuits hydrauliques ne sont pas au programme avant les circuits électriques, ni même en parallèle. Donc du coup, tous ces circuits hydrauliques, ils ne servent pas vraiment comme appui parce qu'on ne les connaît pas. Et leurs propriétés, ben voilà, ne sont ici que tout à fait intuitifs. Alors, il y a d'autres analogies hydrauliques qui donnent lieu à des maquettes. Donc ici, vous avez un schéma, mais il y a beaucoup de collègues dans les collèges français qui fabriquent de maquettes, justement, de petits circuits hydrauliques, avec parfois de bifurcations, comme ici dans la partie 3-6, et avec de réservoirs qui peuvent être soit en haut, soit en bas. Et donc, dans toutes ces analogies hydrauliques, les courants électriques sont rapprochés et comparés au courant d'eau, au courant d'un fluide, parfois ce n'est pas de l'eau, mais en tout cas, il y a un déplacement de matière. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans les fils électriques, il n'y a pas de déplacement de matière. Et donc, du coup, il y a aussi un problème de ça. Et moi, je mentionnais ce matin ce problème de matérialisation de la lumière. Il y a matérialisation du courant électrique dans des circuits métallique également. Quand vous avez l'électrolyse, vous pouvez dire qu'effectivement, il y a de la matière qui se déplace. Quand vous faites dorer un objet ou quand vous faites d'autres processus comme ça avec l'électrolyse où il y a de la matière qui se déplace d'une électrode à l'autre, bon, on peut dire que ce serait moins gênant. Mais pour des circuits où le courant passe à travers des fils métalliques, c'est faux et ça plutôt tendance à renforcer l'obstacle qu'à aider à les surmonter. Et donc, si cette intensité du courant est comparée au flux, ça favorise les interprétations séquentielles. On ne peut pas ici tenir compte de ce qu'on appelle fermeture du circuit. Alors, fermeture, là encore, pour ceux d'entre vous qui ont fait ça il y a longtemps, quand on ferme le circuit, c'est justement pour qu'il commence à fonctionner. Quand il est ouvert, ça veut dire qu'il y a un trou, et dans ces cas-là, le courant ne passe pas, et ça ne peut pas marcher. Or, quand vous ouvrez un circuit hydraulique, quand vous coupez les tuyaux, l'eau s'écoule, Ça n'arrête pas l'eau dans les tuyaux. Donc, il y a un problème. Or, là encore, dans les recherches en didactique de la physique, on se rend compte que c'est le fonctionnement de l'interrupteur qui pose des problèmes, même après l'enseignement destiné à aider à surmonter les problèmes de raisonnement séquentiel. Donc, quand les élèves savent déjà que les deux lampes vont briller pareil et que quand on augmente la résistance, les deux lampes vont briller moins, mais pareil, quand on leur demande la question ce qui se passe quand il y a un interrupteur dans le circuit, entre le générateur et l'interrupteur, le courant passe, les lampes brillent, bon, sont censés. Hein. Et c'est seulement après l'interrupteur quand le courant ne peut pas plus passer. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que l'analogie aurait été utile si on pouvait en avoir une, mais ça c'est très très compliqué. Et d'autre part, une différence de potentiel est souvent assimilée à une différence de hauteur. Alors, pour des petites portions d'un circuit hydraulique, ça peut marcher, mais pour des portions un peu plus grandes, non. Surtout que le circuit électrique, il est fermé. Et donc, comme il est fermé, bon, il y a des collègues qui ont fabriqué des maquettes des circuits hydrauliques à plat, où il n'y a pas justement différence de hauteur pour faire couler l'eau de haut vers le bas, mais il y a une pompe qui justement pousse avec une surpression à circuler à plat. Mais ça pose d'autres problèmes, et surtout les deux. Raisonnement séquentiel, que ça favorise, et difficulté de comprendre le fonctionnement de l'interrupteur. Alors, il y a quand même des analogies que les gens ont produites pour justement cibler cette difficulté de raisonnement séquentiel et surtout pour aider à surmonter cette difficulté qui est générateur potion magique ou générateur réservoir où il y a les charges d'un signe d'un côté, les charges de l'autre signe de l'autre côté, et ça s'attire. Non, dans des circuits électrocinétiques, le courant passe à travers le générateur, même intensité du courant à travers le générateur qu'à l'extérieur du circuit. Et donc du coup, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple cette analogie du petit train où vous avez le générateur qui est imaginez comme une station où il y a des ouvriers qui poussent les wagons, mais comme les petits trains, il est refermé sur lui-même, s'il pousse d'un côté, ça fait circuler partout en même moment pratiquement et de la même manière. Et donc ça rend compte de l'interdépendance des charges mobiles, chaque wagon étant lié aux autres, il est obligé de bouger de la même manière. Et d'autre part, voilà, si on pousse plus fort, ça va plus vite, donc l'intensité du courant est proportionnelle, disons, à l'effort fourni pour faire fonctionner les générateurs. En revanche, les problèmes énergétiques ici ne sont pas possibles à résoudre, parce que si vous imaginez d'autres ouvriers quelque part loin du générateur qui essayent de décharger les wagons, bah, comment faire ça à vitesse constante? Comment faire ça de manière à ne pas pouvoir visualiser les échanges d'énergie entre générateur et les récepteurs? Bah, là, ici, voilà, ce n'est pas possible. Donc, cette analogie, elle a un objectif très modeste. À l'intérieur de ses limites, ça fonctionne, mais les limites peuvent être considérées comme relativement peu satisfaisantes. Il y a un autre modèle, la chaîne du vélo, qui est, disons, toujours même une difficulté principale, à savoir raisonnement séquentiel, qui ici ne peut pas fonctionner. Vous pédalez, vous mettez toute la chaîne en mouvement simultanément, donc il n'y a pas un courant plus fort après le générateur, moins fort avant de revenir. Vous avez aussi un obstacle qui fait que vous pouvez imaginer ça un peu comme une résistance. Si vous appuyez ici, ça va tendre la chaîne, et donc du coup, il faudrait soit pédaler plus fort pour avoir même vitesse de circulation de la chaîne, soit avec la même vigueur de pédalage, bah, ça va être plus difficile, ça va tourner moins vite. Donc ici, il n'y a pas tellement de problèmes de physique, mais c'est limité à l'interprétation d'un circuit série sans interrupteur. Donc là encore, voilà, il y a une limite. Alors, pour synthétiser un peu ça, ces différentes analogies, sont-elles des analogies de structure ou sont-elles des analogies un peu superficielles? Et là, si vous essayez de voir les relations entre mon circuit en dérivation avec les deux lampes et une portion de circuit hydraulique là-dedans et la foule qui bifurque, bah, pas tellement, hein. Ici, voir que c'est une analogie de structure, ça semble difficile, et je ne pense pas que description de cette foule qui se divise et de ce circuit hydraulique qui passe de deux branches, ça permet de comprendre comment font les lampes qui brillent et d'ailleurs pourquoi une brille moins fort que l'autre. Voilà, donc ça c'est compliqué. Et alors, pour suivre là encore, analogie de structure, quand vous voyez ces petites bonnes femmes vertes, aussi bien dans le circuit où c'est les plafonds qui s'abaissent que dans le circuit où ça sert de tous côtés, est-ce que c'est facile de comprendre ça avec cette analogie du vélo qui aussi est censée de représenter l'effet de la résistance? Ben, on peut dire que ici, pour mettre en cohérence les aspects de synthèse, ça ne semble pas commode. Et alors, à propos de cette analogie de structure, est-ce que vous connaissez tous Jojo le cambrioleur? Qui connaît Jojo le cambrioleur? Bon, ok, donc une petite parenthèse, on va aller vers la pensée logique à l'épreuve. Et donc, je vous soumets un problème, et le problème, c'est les habitudes de Jojo le cambrioleur. Alors, s'il vous plaît, regardez un tout petit peu le titre de cette diapo, ça s'appelle « Pensée logique à l'épreuve » et il est transposé par moi, mais très faiblement, d'une recherche qui a commencé en 82, mais après a été reprise en 96, mais qui a, dans son développement, été soumise à tous les appelés du contingent de France, Navarre, Belgique, donc ces pays francophones. Ceux d'entre vous qui, à l'époque, justement, étaient convoqués pour passer, justement, les tests, ben, ils ont eu ça. Donc, du coup, c'était un échantillon statistiquement, les plus imposants possibles. On n'a jamais eu des échantillons aussi impressionnants en didactique de sciences. Et donc ici, il s'agissait justement de voir la pensée logique. Après, il y avait d'autres chercheurs qui ont soumis ces problèmes non seulement aux hommes de 18 ans ou autour, appelés des contingents, mais aussi aux étudiants plus ou moins âgés, aux enseignants en formation initiale, en formation continue, dans les masters MEF, dans les masters des didactiques des recherches. Et donc les résultats, ils sont partout de même nature. Et donc là, bon, moi, je reviens vers les problèmes. Jojo procède toujours de la même manière. S'il y a un système d'alarme dans la maison, alors il utilise une fausse clé. S'il utilise une fausse clé, alors il travaille la nuit. On sait, en plus, que pour son dernier cambriolage, Jojo a utilisé une fausse clé. Ça, c'est l'énoncé. Et après, il y a des questions entourées là où les conclusions justes, et vous avez, Jojo a travaillé la nuit, il n'a pas travaillé la nuit, on ne peut pas savoir s'il a travaillé la nuit. Il y avait un système d'alarme dans la maison, il n'y en avait pas, on ne peut pas savoir. Et il faut expliquer en détail le choix. Et donc, tous ces beaux mondes répondre aux questions. Bon, vous pouvez aussi, s'il vous plaît, imaginer rapidement vos justifications. Et après, dans le même test, et poser une autre question, celle-ci transposée beaucoup plus par moi, parce que dans la recherche initiale, c'était pas Marion, c'était Jacques. Et après, il y a d'autres petites différences, mais disons, l'idée logique est la même, je l'ai gardée la même. Et donc, on sait que si Marion est née en 1990, alors elle a le droit de voter en 2012. Bon, vous imaginez bien que chez Dumont et Ray, ce n'étaient pas les mêmes élections. Hein. Et si elle a le droit de voter en 2012, alors elle a le droit de se présenter à l'examen du permis de conduire. Et on sait que Marion a le droit de voter en 2012. Voilà. Et là, vous avez des questions où il faut entourer là où les conclusions justes. Elle a le droit de se présenter à l'examen de permis, elle n'a pas le droit, on ne peut pas savoir. Elle est née en 90, elle n'est pas née en 90, on ne peut pas savoir. Et il faut expliquer le choix. Et là, je vous dis tout de suite que dans tous ces beaux mondes, ces deux problèmes n'ont absolument pas les mêmes types de réponses ni de justifications. Et en particulier Marion, hein. Pour Marion, il y a énormément de critiques, c'est la première chose. C'est mal posé, on ne sait pas si elle a bu, si elle a perdu ses points, si elle se présente pour la première fois. Bon, il y a beaucoup de critiques par rapport à l'énoncé. Et du coup, la structure logique, si je peux dire, de ces problèmes, elle ne disparaît pas dans les discussions. Voilà. Et donc, bon, pour aller plus loin, je synthétise, donc Marion, si elle est née en 90, elle peut voter. Si elle vote, elle peut se présenter à son permis. C'est ça qu'on propose, c'est l'énoncé. Hein. On ne sait pas si elle a bu ou non, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Et on sait qu'elle a le droit de voter. Après, Jojo, voilà. S'il y a l'alarme, il utilise une fausse clé. S'il utilise une fausse clé, il travaille la nuit. On sait qu'il a utilisé une fausse clé. On peut dire que ce sont deux problèmes qui ont une structure logique avec trois éléments, un élément P, un élément Q, un élément R, tels que si P alors Q, si Q alors R, et Q est vrai. Voilà. Donc du coup, même structure logique, on peut penser que le type de réponse va être le même. Or, pour le contexte familier, à savoir pour Marion, la réussite est massive. On sait qu'elle peut ne pas être née en 90. Là encore, vous avez plein de discussions où on vous dit, pour voter, il suffit qu'elle ait 18 ans, mais elle peut avoir plus. Bon, elle peut voter jusqu'à plus soif. Et pour le permis de conduire, bon, là encore, voilà, le problème est de ses habitudes et ses points éventuellement perdus. Mais en gros, la réussite est massive. Surtout pour ces très très grands échantillons de l'enquête auprès des appelés du contingent. En revanche, pour les contextes exotiques, et là, Bernard Rey se félicite abondamment que les habitudes de Jojo le cambriolaire sont un contexte exotique pour les appelés du contingent, il y a plus de 70% des réponses différentes. Vous voyez ? Donc du coup, la conclusion de Bernard Rey, d'ailleurs dans son livre sur les compétences transversales, est que, et si on répond de manière à être en conformité avec la structure logique d'un problème où le contexte est familier, on ne peut pas en déduire qu'on maîtrise une structure logique. Parce que les réponses, elles peuvent être justifiées par la connaissance du contexte sans du tout s'intéresser à la structure logique d'une part et au raisonnement logique d'autre part. Et donc, les questions où la structure est la même, en revanche, les contextes sont très contrastés, justement dans le sens des familiers et pas familiers, systématiquement donnent des résultats très très différents, ce qui veut dire que d'une part, on ne fait pas spontanément des analogies de structure, en tout cas de structure logique, on ne la fait pas, plus que 70% des réponses différentes à ces deux problèmes de même structure logique, et d'autre part, que très souvent, même si les problèmes concernent un raisonnement logique, c'est la connaissance du contexte qui remporte sur les raisonnements logiques. Donc là, terminer la parenthèse, et donc je m'approche vers la conclusion. Les identités de structure, très souvent, non seulement pour Jojo et Marion, mais pour d'autres situations en enseignement de la physique, et ça va très au-delà de l'électrocinétique, très souvent, ces identités ne sont pas perçues. Alors, on peut dire qu'on a l'enseignant qui peut aider à les percevoir et qui peut aider à les exploiter. Mais, justement, ce qui est important, c'est que cette identité, pour être exploitée, elle doit faire objet d'une analyse. Et donc, comparer deux systèmes, c'est un problème supplémentaire qui peut être extrêmement fécond, extrêmement utile. Je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas faire parce que ça demande plus de temps. Parce que justement, l'utilisation de ce plus de temps que ça nécessite peut être extrêmement utile, à la fois pour approfondissement du type de raisonnement et du type d'analyse de deux systèmes, et d'autre part, pour une satisfaction intellectuelle. Mais en tout cas, là, ici, vous comprenez bien, cible et outil, non, ce n'est pas comme ça que ça marche, quand ce qui est important, c'est une analogie, non pas de surface, mais de structure. Et d'autre part, parfois, similarité des traits de surface peut justement faciliter ou déclencher ou inciter une réponse attendue, ce qui veut dire que les difficultés des élèves peuvent devenir invisibles pour les enseignants. Et dans les recherches en didactique, nous avons beaucoup de ces situations où les difficultés des élèves, à savoir les raisonnements qui violent les lois fondamentales de la physique, n'est pas perçu comme tel parce que les réponses, justement, qui s'appuient sur les similitudes de surface, peuvent être interprétées avec l'indulgence du professeur comme des réponses peut-être incomplètes, mais où il n'y a rien d'explicitement faux. Et cette idée de rien d'explicitement faux, alors ça serait presque bien, ben c'est quelque chose qui, pour la didactique de la physique, est un objet de recherche depuis une trentaine d'années, avec beaucoup de résultats très intéressants, y compris d'ailleurs dans des raisonnements des enseignants, hein, je suis désolée de le dire, mais quand on pose aux enseignants, y compris en formation continue, donc les enseignants qui enseignent eux-mêmes, un thème, si les questions qu'on leur pose sont non standards, très souvent on se rend compte qu'ils n'utilisent pas des connaissances qu'ils ont. Non seulement ils les ont, mais en plus, ils aident les élèves à les construire. Ben non, ils cherchent dans les analogies justement de bon sens, dans les analogies naïves, dans ce qu'on appelle les conceptions ou les raisonnements spontanés qui peuvent violer justement ces lois de physique qu'ils connaissent. Et donc, pour terminer, quand les circuits hydrauliques deviennent l'objet de l'enseignement, par exemple pour des futurs médecins qui modélisent la circulation sanguine, par exemple, ou pour d'autres études où, effectivement, les circuits hydrauliques sont l'objet d'études en détail, c'est pratiquement toujours modélisé par un circuit électrique qui est considéré comme beaucoup plus simple, mais qui peut aider à surmonter les difficultés liées au formalisme d'analyse des circuits hydrauliques. Donc ici, ça c'est mort la queue. Et d'ailleurs, merci pour votre attention, en espérant que vous n'avez pas besoin de potions magiques maintenant, après toutes ces choses tristes. Et si vous voulez, il y a ici aussi quelques références bibliographiques.